De retour au brunch, nous sommes avec le professeur Frank Baumgartner. Il est professeur au département de sciences politiques de l'Université de North Carolina, Chapel Hill. Il va présenter une conférence aujourd'hui intitulée « Les groupes d'intérêt peuvent-ils acheter des politiques publiques à Washington ?» C'est présenté à 11h30 à 12h45. Monsieur Baumgartner, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, parlons un peu de lobbying aux États-Unis. Commençons un peu. Qui est-ce qui lobbie aux États-Unis? On pense souvent aux big business, mais en fait, ce sont les groupes de citoyens qui représentent la majeure partie des lobbies, environ 25%. Qui sont ces citoyens qui revendiquent autant?
Ah, très bien. Très bonne question. D'abord, permettez-moi de présenter mes excuses de mon accent français, mais j'ai appris à l'école, donc votre public va devoir...
Vous êtes excusé.
M'excuser. 25%, ça peut être considéré comme beaucoup ou comme très peu. Ça veut dire que 75% des lobbies sont en fait des lobbies du big business ou des associations d'affaires, etc., ou des sociétés privées. Par contre, les citoyens sont présents. C'est en général des groupes qu'on considère comme, par exemple, des groupes comme la National Rifle Association ou peut-être la lobby des personnes âgées, la American Association of Retired Persons, qui a 35 millions de membres, donc qui est l'un des plus puissants lobbies à Washington. Ça peut être un peu des groupes de bénévoles. Ça peut être un peu n'importe qui. Tout le mouvement de l'environnement, par exemple, fait partie de ce groupe de 25% des lobbies, qui sont vraiment des lobbies où on aurait très peu de choses négatives à dire. Le problème du système de lobby, c'est qu'il y a très peu de pauvres, les gens au chômage ne sont pas présents, et les sociétés privées dominent très largement.
Mais en fait, il est intéressant de noter que le lobby américain suit une genre de règle qu'on peut dire une règle du 80-20, où en fait, il y a beaucoup de lobbies sur très peu de issues.
Très bien, oui.
Qu'est-ce que ça dit en fait du système politique américain que l'on lobbie seulement sur quelques issues? Est-ce que ça dit qu'il y a seulement certaines issues qui sont relevant ou est-ce que c'est juste ces issues-là qui sont vraiment en jeu?
Ben, c'est surtout que s'il y a une vraie possibilité d'action sur de changement de politique publique sur tel ou tel domaine, ceux qui sont concernés par ces actions et surtout ceux qui sont au risque de perdre quelque chose, un acquis qu'ils ont déjà dans la politique publique, ils vont se mobiliser. Ça veut dire que quand il y a pression sur tel ou tel domaine, il y a une réaction conservatrice très importante. Et ça se voit dans la mobilisation des groupes d'intérêt, surtout pour les sociétés privées. Par exemple, dans le domaine de la santé, avec la réforme du président Obama, donc naturellement, les hôpitaux, tous ceux qui étaient concernés par cette possibilité se sont mobilisés. Heureusement pour nous, ça a réussi, mais il y a eu quand même une énorme mobilisation, peut-être la plus grande mobilisation des lobbies de l'histoire des États-Unis, je pense.
Historiquement, comment est-ce que ce système s'est mis en place? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel dans l'évolution des Américains qui font que le lobby fait partie intégrante du système politique? Est-ce que c'est quelque chose qui est récent? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements?
Ben, je pense que ça n'a rien de particulier aux États-Unis. Au contraire, dans tous les pays démocratiques, il y a des lobbies très puissants et le problème, c'est que ce billet des lobbies en faveur des intérêts économiques qui sont déjà les plus puissants, ce billet est présent dans pratiquement tous les pays. Ce qu'on a aux États-Unis, c'est que l'économie est encore plus grande que dans d'autres pays, peut-être. Et il y a énormément de journalistes et énormément d'attention prêtée au système de lobby, mais je pense très sincèrement que ça n'a rien de particulier aux États-Unis. C'est peut-être plus grand, mais ce n'est pas différent de qualité.
Avant, certains disent qu'il y a eu un changement en termes des pratiques de lobbying, où avant, les compagnies eux-mêmes faisaient le lobbying, donc General Electric ou Toyota, et maintenant, ils engagent des firmes qui ont professionnalisé le lobbying. En quoi est-ce que ça change cette pratique et quel genre d'effet ça a eu sur les politiques publiques?
Eh bien, je pense qu'il faudrait dire que la différence, c'est que maintenant, ils font les deux. Ils n'ont pas renoncé à avoir le lobby propre à eux dans leur staff à Washington. Ils ont encore leur département de relations gouvernementales, comme ils les appellent. Mais en plus, ils embauchent aussi des compagnies, des conseillers à Washington pour des raisons spécifiques ou pour des contacts spécifiques avec un membre du Congrès en particulier, par exemple. Et ces cabinets d'avocats qui sont des spécialistes du lobbying à Washington offrent une gamme de services qui seraient peut-être des contacts avec des individus au Congrès ou bien peut-être la possibilité de mobiliser des compagnies, des sociétés ou des gens, de créer des lettres à l'éditeur dans les journaux locaux dans pratiquement tous les États des États-Unis, de ce genre de choses. On appelle ça le AstroTurf lobbying. C'est certain que ça a créé un grand changement. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est plus commun maintenant. Et ça donne encore un avantage aux intérêts qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est très cher d'embaucher ces sociétés.
Mais à part l'argent, souvent on a tendance à penser que les grandes compagnies, ceux qui ont beaucoup d'argent, réussissent le mieux dans le lobbying. C'est pas toujours vrai. À part l'argent, que doit avoir un lobby pour être effectif, pour bien marcher à Washington?
Le lobby doit avoir une bonne idée et une bonne justification pour son changement de politique publique ou bien pour son idée de garder la politique existante. Et l'autre chose qu'on oublie très souvent, c'est que souvent les lobbies les plus puissants sont en opposition avec les lobbies qui sont tout aussi puissants. Donc il y a un système conflictuel dans les politiques publiques qui fait que les riches ne gagnent pas toujours parce que souvent ils sont opposés par des gens qui sont tout aussi riches qu'eux. C'est ça qui étonne peut-être des fois.
Parce qu'on pense souvent aussi que les lobbies sont des agents de changement, ils vont changer des politiques établies.
En général, ce sont des agents du statu quo.
Du statu quo, exactement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça et qu'est-ce que ça dit un peu du système? Parce que là, il y a toute une particularité d'un système qui accepte ce lobby-là. Et donc, pourquoi est-ce que les lobbies, finalement, au final, c'est du statu quo? Est-ce que c'est parce qu'ils ne fonctionnent pas, donc ils ne sont pas assez effectifs? Ou est-ce que c'est parce que les règles du jeu, au final, font que la plupart des projets vont donner des statu quo plutôt que des changements?
Ben, je dirais que c'est parce que ces lobbies faisaient partie du système qui a créé le statu quo. Le statu quo n'a pas été créé par hasard, ça a été créé par des lobbies, des fonctionnaires, des élus dans les périodes antérieures. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très contents avec telle ou telle politique publique qui existe, par exemple, qui donne une subvention à telle ou telle industrie, etc. Et donc, lorsqu'on va essayer de changer cette politique publique, il va y avoir naturellement une mobilisation des gens qui seront négativement influencés par cette décision. Et donc, je pense que c'est parce que les lobbies étaient là il y a 10 ans. Ils ont gagné déjà des choses qu'ils aiment bien et ils vont défendre leurs acquis.
Quand deux lobbies se rencontrent sur une même issue, là, on a dit que souvent il y avait des grands blocs qui se font face par rapport à des grands blocs, donc disons peut-être deux grands constructeurs automobiles qui se font face sur une même issue. Comment est-ce que les lobbies, comment est-ce qu'ils essaient de différencier leur approche? Comment est-ce qu'ils se différencient quand ils travaillent sur un même sujet?
Souvent, dans cette situation, ils ont des implantations géographiques très diverses. Par exemple, si c'était Toyota contre General Motors, je peux vous garantir que General Motors aurait toute la délégation du Michigan, de l'Ohio, des régions du nord des Grands Lacs des États-Unis avec eux. Alors que Toyota aurait le Kentucky et les autres États où ils ont implanté des usines. Et donc, pratiquement, toutes ces grandes questions-là deviennent des questions de région, de conflits de région. Et donc, ça mobilise naturellement les élus de ces différentes régions qui essaient de protéger les intérêts économiques de la région. Et donc, ils sont très inventifs aussi au niveau des cadrages, des justifications qu'ils donnent à tel ou tel changement, alors que tout le monde pourrait savoir que en fait c'est un conflit économique entre deux sociétés privées ou bien entre deux régions des États-Unis, mais ils donnent quand même des justifications idéologiques ou n'importe. C'est le travail des lobbyistes de créer ces liens avec les cadrages politiques qui sont populaires.
Est-ce que le lobbying, est-ce que le lobbyisme, dans le fond, c'est essentiellement à Washington que ça se produit, ou c'est plutôt dans les États, ou peut-être au niveau des congressmen, ou peut-être au niveau des gouverneurs des États? Où est-ce que ça se passe, en fait, le lobbying?
Ça se passe où il y a des décisions politiques qui influencent la dépense publique. C'est-à-dire dans les villes, dans les municipalités, dans les comtés, dans les États et au niveau fédéral. C'est ubiquitous, c'est partout.
Est-ce que, parlons un peu de lobbying en termes de parti. Est-ce que le lobbying est fondamentalement quelque chose qui est républicain ou quelque chose qui est démocrate? Et est-ce que les deux partis ont une façon différente de recevoir les lobbies?
Je dirais que les lobbies essaient d'avoir de bons contacts avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, il y a eu des périodes, par exemple, d'ascendance du Parti républicain où ils ont vraiment joué un jeu très, très difficile en demandant une loyauté partisane très forte. Mais une fois que les républicains n'étaient plus en ascente, les lobbies, ils ont très vite changé de couleur politique et je dirais qu'il n'y a aucune colorisation politique des lobbies. Ils cherchent de l'argent, ils essaient de protéger les politiques publiques qui subventionnent les industries qui les emploient. Et donc, ça n'a rien à voir avec la politique partisane. Par contre, les gouvernants sont de temps en temps plutôt démocrates ou plutôt républicains et les lobbies essaient d'avoir de bons contacts avec eux. Donc, naturellement, ils changent, mais ils changent pour des raisons non idéologiques. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie, alors que ça a beaucoup à voir avec la politique. Et c'est la politique de cette année, pas la politique à long terme.
Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu des différences, par exemple, peut-être des États qui sont plus prone à être lobbyés, ou est-ce que c'est across the board de manière uniforme partout, ou est-ce que vous voyez des poches de lobbying, certains États plus, ou certaines industries plus, ou certains types, par exemple, le chairman de tel comité sénatorial, lui, va avoir plus de lobbying? Est-ce que vous voyez ça comme ça, ou est-ce que c'est plutôt uniforme?
C'est plutôt uniforme en ce sens que le lobbying, le contact avec ses élus, c'est un droit constitutionnel. Donc il va y avoir toujours beaucoup de lobbying. Et si on n'aime pas ce qui se passe, on n'a pas ça du lobbying. Si on aime bien, si on est l'un de ces lobbyistes, on n'a pas ça le contact avec ses élus. Donc c'est pas vraiment une question de où est le lobbying. La question la plus importante, c'est où est le biais, quelle est la diversité du communauté de lobbyistes. Et je pense que là, il peut y avoir de grosses différences entre les différents États, les municipalités, le système fédéral, dans la présence des citoyens, des démunis, ou bien la dominance des sociétés dans le système de lobbyistes. En général, il y a une grande dominance des intérêts économiques dans le système en général, mais pas dans tous les domaines. Et de temps en temps, on voit des lobbyistes pour les citoyens, par exemple, juste après la réforme de la santé, les étudiants aux États-Unis ont eu une grande victoire lorsque le système des prêts aux étudiants a été changé pour avoir des prêts directement de l'État fédéral et non pas par des banques privées qui prenaient, je pense, 2% du montant du prêt pour le supposé risque de prêter cet argent aux étudiants, alors que c'était des prêts garantis par l'État fédéral. Mais ça a été le statu quo, ça a toujours été comme ça. Mais là, l'administration Obama a changé cette politique et les banques ont bien essayé de de défendre cette subvention, mais ils n'ont pas réussi. Donc, de temps en temps, on voit une assez grande victoire pour les gens qui sont pratiquement démunis de lobby.
Quand est-ce que vous diriez que le lobbying aux États-Unis est une pratique opaque? Parce que je sais que le président Obama a fait certains changements qui requièrent beaucoup de paperwork de la part des lobbies, ceux qu'ils ont rencontrés, ceux qui les engagent aussi. Est-ce que c'est une activité qui est opaque ou c'est une activité qui est relativement claire, que vous, en tant que chercheur, vous avez facilement accès aux documents pour être capable de retracer un peu les différentes étapes d'un processus de lobbying?
Oui, ça, on ne sait pas quelles seront les retombées de cette politique. En fait, pour des raisons, je ne sais pas pour quelles raisons, mais parce que ils ne voulaient pas avoir une administration liée à l'industrie des lobbyistes, le président Barack Obama a bien changé les règles. Je pense, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais je pense que ça va créer une incitation aux lobbyistes de ne pas être vus officiellement comme un lobbyiste. Donc ils vont essayer de ne pas signer des documents qui sont demandés par le Congrès, parce que le Congrès demande une régulation et... ils sont obligés de s'inscrire. Il y a une inscription et un reportage tous les trois mois des lobbyistes. Mais si, par exemple, on travaille pour un cabinet de lobbyistes, on pourrait dire qu'on n'a pas fait de contact direct soi-même et donc on ne signe pas son nom au document. Et ce serait dommage, je pense.
Quand on parle de lobby, on a souvent tendance à parler au lobby interne, donc les grandes compagnies qui viennent. Est-ce qu'il y a un statut différent pour les gens, par exemple, des Americans qui vont lobbyer au Congrès, tandis que si, par exemple, on a des Chinois ou des Allemands ou des Africains, des
Sud-Américains? Des étrangers.
Est-ce qu'il y a une différence de statut? Est-ce que le final, le résultat est différent?
Il y a certainement des intérêts étrangers qui viennent faire du lobbying à Washington, y compris par exemple les compagnies de forestières canadiennes. Je dirais qu'ils sont assez présents à Washington, mais les compagnies chinoises ou autres. Et oui, c'est toujours assez mal vu d'avoir été embauché par un intérêt étranger, donc. Ça peut avoir des retombées négatives si c'est connu. Donc oui, il y a une demande de régulation des intérêts étrangers. C'est un peu normal, c'est un peu dommage, mais ça se passe comme ça dans tous les pays, je crois.
Le lobby est parfois des fois sur des choses qu'on pourrait appeler des issues et d'autres fois sur des politiques économiques. Donc, par exemple, on peut faire du lobby sur le droit à l'avortement ou être contre l'avortement et d'autres, on peut faire d'autres choses qui sont sur plus des politiques économiques.
Plutôt idéologiques ou simplement économiques, vous voulez dire.
Exactement. Donc, quelle est la différence un peu dans le type de lobbying quand on fait un lobbying sur une issue et quand on fait un lobbying sur des politiques publiques? Quelle est la différence? Comment est-ce que les lobbies font une démarche différente, dépendamment de ces deux choses-là?
C'est surtout plus symbolique lorsqu'il s'agit du droit du port d'armes ou de l'avortement ou de certaines questions environnementales, par exemple. C'est plutôt dans les médias, ça vise plutôt un grand public qui va, on espère, contacter leurs élus. Et puis, pour ce qui concerne les lobbies, pour les questions économiques des sociétés, c'est plutôt consensuel, c'est plus à Washington, c'est plutôt dans les dîners ou des déjeuners, c'est plutôt avec beaucoup plus de faits, de reportages, de statistiques, d'études sur l'impact, sur l'emploi de telle ou telle décision, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup moins idéologique et c'est beaucoup plus facile à faire des compromis là-dessus. Ce qu'on essaie de faire dans le lobbying plutôt symbolique ou idéologique, c'est d'empêcher tout compromis. Donc, c'est très différent.
Vous, en tant que chercheur de sciences politiques, vous regardez ça, vous avez publié, donc vous avez fait une étude d'environ 4 ans, publié des livres, des articles là-dessus, vous regardez ça, ça fait longtemps que vous étudiez ça. Pour vous, le lobbying, c'est bon ou est-ce que c'est... Parce que souvent, on a tendance à le revoir comme un grand Satan du système politique américain. Est-ce que pour vous, en fait, en tant que chercheur, vous trouvez que ça a des aspects positifs ou est-ce que vous pensez qu'on devrait get rid of it puis changer, trouver une nouvelle façon?
Pour moi, le problème, c'est la non-mobilisation des gens normaux, des gens comme vous et moi, ou même encore plus, des gens qui sont vraiment les gens les plus démunis du système économique. Et c'est dans tous les pays, c'est pas seulement aux États-Unis. Il est naturel que ces gens-là ont d'autres priorités, d'autres préoccupations dans la vie que de créer des lobbies. Par contre, les banquiers, les sociétés qui n'ont rien à craindre du système politique, là, ils se mobilisent très, très fort. Et c'est ça un peu le paradoxe des lobbyistes ou du système de lobbying. C'est un droit constitutionnel, donc il n'y a pas de sens à dire qu'on devrait l'interdire. Mais si on pouvait créer des incentifs ou même rappeler aux élus qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire partie du système de lobbying parce qu'ils sont au chômage ou ils sont à l'hôpital ou je ne sais pas quoi, et de ne pas oublier le souci, ce serait une bonne chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a le système politique.
Une dernière question, j'en profite parce que vous êtes ici en onde. Vous faites beaucoup de travail sur la peine de mort. Est-ce qu'un jour on peut espérer que les Américains vont abolir la peine de mort au complet?
Je pense que oui. Ce serait une réforme incroyable aux États-Unis, mais déjà depuis 1996, je pense, on a diminué des deux tiers le nombre de condamnations. Et je pense encore plus le nombre d'exécutions aux États-Unis. C'est en diminution très, très forte en ce moment parce qu'on a découvert l'idée que c'est un système bureaucratique qui est qui peut faire très facilement des erreurs. Et lorsqu'on pense de la peine de mort d'un point de vue complètement abstrait ou morale ou même religieuse, la plupart des Américains sont en faveur. Mais lorsqu'on y pense d'un point de vue plutôt est-ce que le système marche comme il devrait marcher, tout le monde se rend compte qu'il peut y avoir des erreurs. Et cette découverte de l'innocence et cette découverte des erreurs et ce changement de ton dans la discussion a entraîné beaucoup de changements de politique publique aux États-Unis, même au Texas, où il y a 40% des exécutions aux États-Unis sont au Texas. Même là-bas, ça a beaucoup changé. Et on peut espérer, je pense, que ça va continuer, oui.
Mais ça, c'est une question d'État. C'est pas une question de... C'est pas l'appareil fédéral qui peut décider ça. C'est chaque État qui doit décider ça.
Chaque État. Et il y a une concentration incroyable dans un très petit nombre d'États. Le Texas, l'Oklahoma, la Floride, la Virginie, les États du Sud. Et les autres États, par exemple dans le Michigan d'où je viens, dans les États du nord des États-Unis, en général, il n'y a pas eu d'exécution depuis la période moderne, depuis 76, je veux dire.
Parfait. C'était M. Frank Baumgartner, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de North Carolina, Chapel Hill. Il va présenter une conférence aujourd'hui de 11h30 à 12h45 qui s'appelle « Les groupes d'intérêt peuvent-ils acheter des politiques publiques à Washington? » M. Baumgartner, merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.